La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Ah, le cinéma. Alors, sans vouloir caricaturer Edouard Baird, qui lui-même caricature le plaisir de voir un film dans une salle sur grand écran, riant au nez de Netflix et autres services de vidéo à la demande, chronologie des médias oblige, c'est quand même formidable d'aller voir un film en salle, ne serait-ce que pour profiter des réactions des gens qui partagent avec nous cette expérience unique. J'en ai encore une fois fait l'expérience lundi, c'était au détour de l'avant-première d'un film québécois dont je tairai le titre pour éviter de divulgâcher le contenu de cette émission. Un film qui parle d'amour, de sexe, de libération, du plaisir féminin. Si on peut parler de libération, tant il est naturel de ne voir que des femmes au plaisir sexuel libre, juste libre. Et pendant cette séance, il n'y a pas que le plaisir féminin qui s'est montré sous son grand jour. Non, il y a aussi le plaisir des hommes à prendre la parole. Vous savez, ces vieux, blancs, cisgenres, hétérosexuels qui venaient de passer le week-end à la boule à en croire leur coup de soleil sur leur front national. Ces mêmes vieux qui... Et ma feuille est à l'envers. Ces mêmes vieux qui prennent la parole pour s'adresser à la scénariste de ce film, dont je tairai le nom pour ne pas divulgâcher notre invité du soir. Ces mêmes vieux qui lui demandent donc « Hey, y a qu'au Québec qu'on est aussi libre sexuellement ?» Alors entendre ces vieux, on pourrait se recroqueviller sur notre silence radiophonique et se dire intérieurement « Bienvenue dans le passé du patriarcat toujours aussi présent, mais non, le plaisir sexuel, qu'il soit féminin, masculin, libertin, et partout, que ce soit au Québec, en France ou sur Radio Campus Paris. » Bonsoir la francilienne, bienvenue dans la matinale de 19h. Vous l'aurez compris, nous ne parlerons pas de la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, mais bien de Charlotte à 17 ans, l'histoire du personnage éponyme qui, après sa première déception amoureuse, découvre les plaisirs qu'il peut y avoir à vivre sa vie sexuelle librement avant de se confronter au regard des gens qui l'entourent. Notre invitée Catherine Léger, scénariste de ce film de Sophie Lorrain, que vous pourrez retrouver à partir du 12 juin en France dans toutes les salles obscures. Ce sera juste avant de retrouver Antonin qui nous fait le plaisir de conclure cette émission avec sa chronique. C'est parti.
Samuel, c'est un gars incroyable puis sensible. C'est mon âme sœur puis je vais toujours l'aimer.
Faut qu'on se parle.
Fuck you, Samuel Fortin! Fuck you avec tes je t'aime de merde!
Si vous étiez un petit peu plus comme moi, on passerait pas nos vies à jaser de vos S. Non, mais c'est correct, là. C'est juste que des fois, il faudrait vraiment dédramatiser puis juste...
Yo, Francis. Merci, ma.
Juste... coucher avec des hétérosexuels.
Les gars du magasin, ça a comme rien à voir avec les gars du secondaire.
Ouais, ils sont vraiment chill.
Comme vous êtes en formation, pour vos deux premiers quarts de travail, vous allez être jumelé à un employé régulier.
On va faire ta formation avec moi aujourd'hui.
Je pense que j'ai plus joué là que toutes les fois avec Samuel mis ensemble.
Puis là, il m'a dit... seul sexe, toi. Hein? Je me sentais super mal. J'étais comme, je suis une salope dans le mauvais sens du terme, mais non.
Salope dans le bon sens du terme.
T'as une fiche parfaite, là, de coucher avec tout le monde.
Une fiche parfaite, vous avez couché avec tout le monde. Vous venez d'écouter un extrait de la bande-annonce de Charlotte à 17 ans, le film de Sophie Lorrain qui sort le 12 juin dans les salles obscures françaises. Bonsoir Catherine Léger.
Bonsoir.
Vous êtes la scénariste de ce film avec Marguerite Bouchard dans le rôle titre, pardon, accompagnée notamment de Romane Denis et Rose Adam. Merci d'être avec nous dans la matinale de 19h pour nous parler de ce film que j'ai pu voir lundi, comme je disais dans cet édito. Alors, Charlotte à 17 ans n'est pas le seul titre du film, puisqu'on le retrouve au Québec sous le nom Charlotte a du fun. Et il me oui. semble avoir entendu pendant les questions-réponses qui ont suivi la projection du film qu'aux États-Unis il se traduit par salope au bon sens du terme, dans le bon sens du terme, comme on a pu l'entendre dans la bande-annonce. Pourquoi ne pas avoir appelé le film par un de ses titres en France, si vous aviez un pouvoir effectivement de nomination du film
J'ai pas eu de pouvoir sur aucun titre, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait l'appeler salope dans le bon sens du terme au Québec. On n'a pas pu. On l'a appelé Charlotte du fun suite à la décision du distributeur.
Pourquoi vous n'avez pas pu l'appeler salope dans le bon sens du terme? C'est par pudeur?
Peut-être la pudeur, peut-être la peur de d'annoncer quelque chose qui n'était pas là. Je pense que le film, je pense que Salope, dans le bon sens du terme, est un bon titre pour ce film-là, qui, au niveau du sujet, mais peut-être que ça évoquait quelque chose de plus cru que ce que le film est, en fait. Parce que le film est un... Je pense qu'on va loin dans ce qu'on dit, dans ce qu'on explore, mais c'est pas provocateur visuellement, c'est pas... Et peut-être que les gens ont je sais pas... Bizarrement, ça nous échappe un peu, ces décisions-là sur les titres. Ceci dit, Slut in a Good Way aux États-Unis a vraiment bien fonctionné, dans le sens où on le voyait dans les critiques, on a eu des bonnes critiques, mais les gens parlaient du titre dans leurs critiques souvent. C'était, l'image avait marqué l'esprit, en fait.
Parce que le terme, on va y revenir pendant cette interview, mais effectivement, le terme, on en parlait notamment pendant la projection, mais on va revenir sur le film. Le terme salope, slut, en anglais, c'est un terme dont la connotation est plus ou moins insultante en fonction des pays, si j'ai bien compris le point de vue qu'il peut y avoir. Donc c'est un dialogue salope dans le bon sens du terme qu'on retrouve dans la bande-annonce et dans ce film qui suit la trajectoire de Charlotte, interprétée par Marguerite Bouchard, après sa première déception amoureuse, comme on disait, avant d'être embauchée avec ses deux amis dans un magasin de jouets. Elle commence alors avec une partie des hommes, à flirter avec une partie des hommes, si ce n'est tous ses collègues, avant de se confronter au regard des femmes et des hommes qui l'entourent. Vous vouliez d'abord montrer l'épanouissement de Charlotte dans sa vie sexuelle de manière naturelle, si on peut dire?
Oui, en fait, c'est un épanouissement qui n'est pas conscient. C'est pas, y a pas une décision féministe de la part de Charlotte de dire « je vais vivre ma sexualité librement ». Elle fait juste... Elle a un sentiment de confort. Elle a l'impression que tout le monde couche un peu avec tout le monde, donc elle sent qu'elle a le droit de faire ça, qu'elle ne sera pas jugée. Et elle explore parce qu'elle en a envie physiquement. En fait, ce qu'on voulait rappeler avec ce film, c'est que les filles aussi, bizarrement, ont des hormones et que, alors qu'on voit des tonnes de films où les gars, où on parle de la libido des gars, des hormones des gars, du désir de perdre la virginité, des films grand public, des comédies grand public, parce que c'est ce que c'est aussi, c'est une comédie grand public, ben nous, on voulait faire une comédie sur les hormones de Charlotte, en fait. Oui. Donc, c'est pas un geste féministe quand elle le fait. C'est pas intellectuel. C'est juste... Les gars sont là, c'est simple, elle en a envie, elle le fait. Et après, ça devient intellectuel et après, ça devient compliqué.
Et c'est ça qui est intéressant, finalement, dans la première partie du film, parce que, du coup, elle flirte avec ses collègues masculins, elle couche avec plusieurs d'entre eux. Et finalement, c'est tout à fait, c'est ce que vous dites, c'est tout à fait naturel. C'est, on a l'impression de voir une femme flirter comme... Tout le monde a la même vie sexuelle, finalement, pendant la première partie du film, en tout cas. Et oui. Est-ce que c'est... Donc c'est pas pour ça que le film est féministe, comme vous disiez, c'est d'abord sur... c'est plutôt après, quand on commence à confronter la liberté sexuelle de cette femme devant le regard des hommes comme des femmes.
Mais en fait, le film est féministe. Pour moi, c'est une comédie féministe, mais le geste de Charlotte, quand elle le fait, le point de vue du personnage n'est pas féministe. Elle n'a pas l'impression d'être en train de révolutionner le monde en couchant avec ses collègues de travail. Elle le fait parce qu'elle en a envie. Le film est féministe parce que, justement... On parle de la sexualité des filles en parlant de leur plaisir et de leur désir et non pas d'un point de vue théorique, intellectuel. Et donc, oui, à un certain moment, quand ça devient clair que Charlotte a couché avec beaucoup de gars, là, ça devient trop pour elle et il y a du jugement de la part de ses collègues, ses collègues filles. Et là, le film... Tout d'un coup, les conversations que les jeunes ont sont des conversations féministes. Mais au départ, les conversations féministes viennent un peu plus tard dans le film. Parce que, je veux dire, c'est sûr que c'est pas anodin, encore aujourd'hui, une fille qui va coucher avec beaucoup de gars. Il y a toujours un moment... il y a toujours un moment où il y a un danger que la fille devienne une salope dans le mauvais sens du terme. Et c'est de ça que j'avais envie de parler.
Alors qu'un homme qui fait la même chose, et vous le racontez dans le film, c'est un champion. C'est contradictoire. Alors qu'ils font la même chose.
Ben, tout à fait. En fait... C'est drôle parce que quand on en a beaucoup parlé du film au Québec quand c'est sorti, on en a parlé, on a fait des visionnements tests avant de sortir le film. Et au départ, les gens, ils ont toujours une petite réaction de dire « Mais franchement, les filles, c'est pas vrai, là, que... » Puis là, quand ils se mettent à y réfléchir, puis « Ah, mais c'est vrai que, ouais, tu sais, telle fille a couché avec pas mal de gars, puis je l'aurais pas présenté à mes parents. » Tout d'un coup, ça ressortait, c'est comme... C'est encore là. En théorie, c'est pas là, mais si on creuse un peu, c'est encore là. Le double standard.
Et cette libération du plaisir féminin, le plaisir de Charlotte, et ses questionnements aussi sur sa vie sexuelle et sentimentale sont accompagnés par une musique récurrente pendant le film. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Un extrait de Carmen, l'opéra de Georges Bizet, chanté par Maria Callas, qui accompagne la vie de Charlotte pendant tout le film, une vidéo YouTube qui est montrée à l'écran. Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec cette présence de Carmen dans la vie de Charlotte?
En fait, c'était un choix de la réalisatrice Sophie Lorrain qui... Quand je lui ai présenté le scénario, tout de suite, elle a accroché au scénario, mais Sophie qui n'est pas de la même une autre génération. Moi, je suis un peu plus jeune. Puis là, on parlait de filles encore plus jeunes. Puis on constatait qu'il y avait quelque chose ce débat-là sur la sexualité des filles dure depuis toujours. La passion, l'amour, le désir, l'obsession que les femmes en ont, comment les religions veulent contrôler la chasteté des femmes, comment... tout ça, ça existe depuis toujours. C'est pas...
Carmen en serait du coup l'ambassadrice?
Ça donnait un clin d'œil, ça donnait du recul au film qu'on a voulu moderne, mais qu'on a voulu autre chose aussi, le côté femme avec le noir et blanc et le justement Callas qui vient d'une autre époque mais qui a quelque chose de grandiose en fait. C'est juste pour mettre les jeunes filles en relation avec quelque chose qui les dépasse.
Et le film englobe d'autres thèmes autour de la sexualité, de l'amour, notamment la dépendance affective. Est-ce que l'émotion et l'orgasme sont compatibles? Il y a un dialogue autour de ça à un moment dans le film. La complexité aussi d'être encore vierge quand son entourage connaît ses premières expériences sexuelles avec le personnage interprété par Romain Denis, Mégane. Est-ce que vous vouliez parler aussi de l'amour et du plaisir sexuel sous toutes ses formes?
Je voulais juste... Avec le trio de jeunes filles, là, qui sont vraiment notre trio phare, les trois personnages, il fallait donner... j'avais envie de provoquer Charlotte un peu pour pas qu'elle aille apporter elle-même tout le... Tu sais, elle a sa libido, mais la liberté qu'elle se donne, elle est aussi encouragée par son amie Megan, qui est dans la provocation, qui, elle, est dans la théorie, qui est dans l'anarchie. Elle voudrait être anarchique, finalement. Elle veut l'anarchie sexuelle. C'est une rebelle. Et donc, elle pousse un peu sur les cordes de Charlotte, ce qui fait que, c'est, pour moi, comme c'était un moteur dans l'histoire. Ça permettait de donner à Charlotte le go qu'elle avait besoin pour aller au bout de son exploration. Et en même temps, il fallait pas non plus... il fallait comme mettre les choses en perspective encore, c'est-à-dire que le personnage qui a la pression, qui cherche plus la romance, ça existe aussi, donc moi ce que j'aime surtout dans ce trio-là, c'est que les filles sont différentes, ils se parlent comme si ils ont grandi ensemble, ils sont pas dans une amitié de filles en train de toujours être dans la joie puis dans le petit rire, puis ils sont joyeuses mais aussi ils se parlent, ils se confrontent, ils ont des conversations intellectuelles, et donc ça... Pour moi, ce trio-là est important. Ils n'ont pas de filtre ensemble. Et ça nous donne accès à vraiment leur pensée, mais aussi leur sur-théorisation, qui est propre à l'adolescence aussi. Il y a des personnages qui parlent beaucoup parce qu'ils sont en train de se créer un monde, ils sont en train de s'inventer un monde.
Et par rapport à tout le panel de films, de teen movie, si on peut dire, puis ça rentre un peu dans le registre du teen movie, avec des adolescents qui connaissent leurs premières expériences amoureuses. Est-ce que pour vous, il y avait un besoin aussi d'apporter plus de complexité à ces personnages-là pour des adolescentes?
Oui, il y avait, mais tout ça est venu assez naturellement. L'impulsion de départ, c'était en tout cas de dire, ben, on fait plein de teen movies sur les gars qui ont envie de baiser, mais les filles aussi ont envie de baiser. Et donc, faisons un film, ce qu'on imaginait comme une comédie grand public au départ. Et plus on travaillait le film, plus on s'est rendu compte qu'on n'allait pas être reçu, les gens n'allaient pas nous permettre de faire une comédie grand public avec ce sujet-là. Alors qu'on avait juste inversé l'histoire du gars qui veut perdre sa virginité, puis on l'avait mis vers une fille qui explorait sexuellement, on sentait qu'on était tout d'un coup sur un sujet beaucoup plus pointu, qui allait nous amener peut-être plus dans un cinéma plus indépendant, plus... Et là, c'est là que finalement, Sophie a pris la décision d'amener le film où elle l'a amené, parce que finalement, on est allé dans un créneau un petit peu plus marginal à cause du sujet.
Dans une mise en scène plus indépendante.
Oui, exactement.
Et vous parliez des garçons. Comment vous vouliez les traiter, les garçons, dans le film? Est-ce que ce sont des caricatures de ce qui peut exister chez les hommes? Ou finalement, est-ce que c'est une caricature de leur comportement avec les femmes? Ou il y a quelque chose d'aussi naturel que dans votre traitement des personnages féminins?
Oui, donc je voulais me venger pour toutes les fois où les femmes sont des caricatures et j'ai fait des caricatures. Non, pas du tout, en fait. Sérieusement, comme le film était sur les filles, on ne voulait pas aller vers des personnages masculins qui auraient parlé de masculinité toxique. Parce que si on mettait des personnages masculins qui étaient trop négatifs, tout d'un coup, la décision de Charlotte, le regard que Charlotte avait sur sa sexualité, il ne lui appartenait plus. Et donc, ce qu'on voulait, c'est par la fiction, revendiquer un espace où les filles explorent leurs désirs sans constamment avoir peur du jugement des gars. Donc, je pense que les gars sont très sympathiques dans le film. Ils sont amicaux, ils sont ouverts, ils sont rigolos, mais on va pas dans le côté plus brut qu'on pourrait imaginer. Dans une gang, il pourrait y avoir des gars un peu plus agressifs, mettons, puis on les a écartés, ces personnages masculins-là, pour vraiment recentrer la discussion sur les filles, ce qui donne aussi un côté un peu fable à l'affaire, mais en même temps, les gars sont fins, là. Je veux dire, moi, j'étais adolescente il y a 15, 20 ans, mais les gars étaient fins.
Ça arrive à tout le monde.
Je m'ennuie, d'ailleurs, jamais ça. Mais donc, tu sais, c'est bien beau parler de masculinité toxique, mais il n'y a pas que ça, là.
Eh bien, justement, il y a plein de choses qu'on peut dire avec ce film. Vous restez avec nous, Catherine Léger. On continue de parler du film Charlotte à 17 ans, juste après cet entracte. Que dis-je, cet interlude musical. Vous écoutez la matinale de 19h.
Amour et cul s'en vont par pair sur un petit chemin de terre. Main dans la main, le cœur joyeux, la couille dure, le poil soyeux. Les osios gazouillent à tue-tête, herbes et vaches se font des couettes. Amour et cul vont à la mer sous deux gais rayons de lumière. Amour est beau, cul est mignon. L'un se fait mi, l'autre quignon. Tu veilles amour, amour, cercle, ils avancent bras dessous, dessus, comme deux jumeaux ou deux aimants, amour et cul s'en vont gaiement. Amour et cul roulent par terre, au rond s'écorche leur derrière. Peau contre peau, le cœur battant, la couille mûre, le poil brillant. Les fraises mouillent de plaisir, arbres et fleurs sont morts de jouir. Amour et cul déploient leurs ailes sur l'échelle du septième ciel. Amour est tendre, cul et cochon. L'un se fait tache, l'autre torchon. Cul baise amour, amour lèche cul, il craque, suinte et souffle et sue. Comme deux jumelles, deux arlequins, amour et cul ne font plus qu'un. Amour et cul vont solitaires sur deux ronds-points sans espace vert. Loin dans le loin, le cœur sans yeux, la couille vide, le poil vitreux. Un rat morceau tape un cafard, chair et béton chie du clochard. Amour et cul vont à l'égout, sous des flots salis de dégoût. Amour vomi, cul désespère, l'un si pourri, l'autre si perd. Cul sans amour, amour sans cul, sans fond, sans des voies, sans issue. Comme de trésors orphelins, amour ni cul ne sont plus rien. Paille, palapapaille. Paille, 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 paille.
ne sont plus rien.
C'était Amour et cul d'Evry Gueule, c'était de circonstances sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il est 19h20 sur le 93.9, nous sommes toujours en compagnie de Catherine Léger, scénariste du film Charlotte à 17 ans, que vous pourrez retrouver dans toutes les salles obscures le 12 juin. Le film Charlotte à 17 ans a été projeté en noir et blanc, enfin il a été tourné, monté en noir et blanc. C'était une volonté, c'était votre volonté ou c'était la volonté de la réalisatrice de...
C'était la volonté de la réalisatrice. Il y a eu, ben, comme je disais tantôt, le désir un peu d'aller vers une signature peut-être plus poétique ou aussi de donner une certaine noblesse à un sujet qui, où on s'est rendu compte que finalement, ça allait pas passer aussi bien que la sexualité des garçons. Je pense qu'aussi, il y avait... Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on voulait pas faire un film qui allait être trop visuellement, trop liché, trop... et donc, on voulait pas aller dans le voyeurisme. Et le noir et blanc donne un côté aussi feutré qui fonctionne, qui protège encore Charlotte. L'idée, c'était toujours de protéger Charlotte. On voulait pas parler, tu sais, revendiquer un espace où les filles puissent parler de sexualité puis finalement en faire un objet sexuel au cinéma.
Un objet sexuel, et effectivement, même dans la mise en scène, le personnage de Charlotte et sa sexualité est traitée très subtilement, enfin, par rapport à tout le panel de films aussi sur la sexualité, où aujourd'hui, les scènes de nu sont aussi des choses qui sont très récurrentes dans le cinéma aujourd'hui. Dans ce film, il y a une certaine subtilité à montrer le plaisir de Charlotte. Et par rapport au noir et blanc, dans la continuité de ce noir et blanc, il y a une partie de l'action, notamment les scènes de flirt et de confrontation entre les filles et les garçons, qui se déroulent dans le magasin de jouets. Ça, plus le noir et blanc, plus le magasin de jouets, c'était le terrain de jeu idéal pour mettre en scène les passions adolescentes du film.
Oui. En fait, ben, l'idée, bon, on l'a analysé sous plein d'angles, c'est-à-dire, ah, ben, ils ont encore un pied dans l'enfance, un pied dans le monde adulte, parce que bon, c'est pas clair pour moi comment ça se passe nécessairement en France, mais au Québec, les jeunes commencent dès qu'ils ont 15-16 ans, même s'ils sont toujours étudiants, ils sont comme au lycée, en fait, et ils travaillent à temps partiel, ils font 16 heures par semaine pour avoir de l'argent de poche, pour... Et en fait, c'est ça. Donc, le magasin de jouets semblait prédestiné à cette affaire-là. Mais si je vous dis la vérité, la vraie, vraie vérité, c'est que quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé dans un magasin de jouets. Et c'est pour ça.
Et ça vous a inspiré, votre vécu oui. Vous a inspiré pour
voilà.
Ce film.
C'est, ça a été ça, la case de départ. Mais bref, ça fonctionnait aussi au niveau de la poétique du film.
Et c'est, symboliquement, ça est-ce que, du coup, symboliquement, le film raconte aussi le passage de l'enfance à l'âge adulte, cette espèce de transition qu'est l'adolescence, racontée à travers le thème de la sexualité féminine?
Oui, tout à fait. Puis il y a aussi, c'est ça, donc ce moment-là où les jeunes commencent à se trouver des emplois à temps partiel. C'est un moment qui est assez marquant, surtout pour les filles, je pense, parce que quand t'es à l'école, t'es toujours avec des gens de ton âge, t'es toujours... Et donc, oui, il y a des couples qui se forment, il y a des jeux de séduction, mais quand, oups, d'un coup, tu passes 16 heures dans ta semaine avec des gars juste un petit peu plus vieux, qui te regardent pas de la même façon, qui... tu sais, donc, il y a comme... mais pour les gars aussi, c'est la même chose, mais c'est-à-dire que ton monde s'ouvre, et tout d'un coup, il peut se passer, justement, un sentiment de gang, un peu de camp de vacances, mais un pied dans le monde adulte, encore plus.
Et donc, cette transition se passe aussi par la rencontre de nouvelles personnes, comme on l'entendait dans la bande-annonce, vous le disiez plus ou moins à l'instant même. On rencontre aussi des nouvelles personnes en trouvant un travail, on sort un peu de nos habitudes où on a connu pendant sa scolarité à peu près les mêmes personnes.
Oui.
Et donc, avec ces nouvelles rencontres, il y a d'autres références. On parlait de la référence dont vous parliez de Carmen chantée par Maria Callas. Mais il y a d'autres références musicales, si on peut parler de musique, qui se glissent pendant le film, comme celle-ci. Xmas Tree de Bollywood Dance, joué sur Just Dance plusieurs fois, enfin Just Dance, le jeu revient de manière récurrente dans le film, et le film se conclut par Xmas Tree. Pourquoi vous avez choisi cette musique? Ça faisait partie de l'écriture du scénario? C'est un choix de la réalisatrice?
En fait, c'est arrivé, bon, ce qui était dans le scénario, c'était, il y avait à quelques reprises, on voyait les gars jouer à des jeux vidéo. Tu peux pas être dans un magasin de jouets sans qu'il y ait des jeux vidéo. Et finalement, le producteur, Martin Paulus, a créé un partenariat avec Ubisoft. Et c'est là qu'on a, on est tombé sur
Just Dance.
Exactement, qui est une compagnie montréalaise. Et c'est là qu'on est tombé sur... Ils nous ont dit, bon, voici les chansons dont on a les droits et dont vous pouvez vous servir. C'est-à-dire que tu peux faire Just Dance sur du Lady Gaga, mais on pouvait pas payer les droits à Lady Gaga. Et on est complètement tombé amoureux, Sophie, Martin et moi, de ces chansons-là. Et comme le film se termine à Noël, parce que comme l'emploi... ils se font engager pour le temps des fêtes, comme les magasins de jouets sont très sollicités.
C'est un film qui traverse une année.
Mais en fait, ça traverse une saison. C'est-à-dire qu'ils commencent début septembre, il y a l'Halloween, puis finalement, après Noël, ben, ils perdent leur emploi. Donc, ça se termine à Noël. Et quand on a vu Bollywood Christmas, ça fonctionnait pour le party à la fin, le sentiment d'ambiance aussi, puis encore là, la légèreté, puis le côté lumineux, je pense. Comme après tout ce qu'ont traversé les jeunes, toutes les discussions sur les rapports hommes-femmes, ben, ils se mettent un Just Dance, un Bollywood Christmas, puis ils dansent ensemble.
C'est un peu le feu d'artifice du film, finalement. Voilà. Et est-ce que c'est aussi le symbole, le dernier symbole un petit peu du jeu de séduction qu'il y a entre les hommes et les femmes, quand on voit chaque couple qui défile un petit peu, qui défile devant l'écran de Just Dance, il y a un rapport comme ça aussi entre la musique et le jeu de séduction qui est mis en scène pendant tout le film?
Oui, tout à fait, puis c'est comme, tu sais, tout le long du film, on voulait que ce soit joyeux, mais on a cette fin joyeuse-là aussi où il y a une célébration de l'amour quand même. Là, on n'est pas en train de... C'est pas un film pamphlétaire contre l'amour, là.
Évidemment. Et justement, un film sur l'amour qui a pris plusieurs femmes, si j'ai bien compris. Combien de versions il y a eu du scénario de Charlotte à 17 ans?
Ça, c'est une très bonne question. Probablement, il y a toujours beaucoup de versions de scénario, mais je dirais probablement 5-6. L'impulsion de départ était claire, par contre. Ce qui est resté, quand j'ai eu l'idée pour le film, j'ai fait un pitch de deux lignes, et ce deux lignes-là est toujours le même aujourd'hui. On s'en est servi tout le long. Et aussi le sujet, c'est-à-dire que la phrase clé qui reste, c'est que c'est un film qui veut parler du paradoxe qu'on s'attend à ce que les jeunes femmes soient séduisantes, mais en même temps qu'il faut qu'elles soient prudes. Et ça, c'est resté encore. Donc, l'idée maîtresse du film est toujours demeurée la même. Et
donc, 5-6 versions, vous disiez, ouais. c'est dans la moyenne à peu près dans la production d'un long métrage.
Oui,
vous savez si c'est la moyenne quand on écrit un film au Québec ou généralement dans le métier de scénariste
Je pense, je dis 5-6, mais tu sais, il y a des choses qui se passent par étapes aussi.
Il y a peut-être des scènes aussi qui ont été réécrites pendant le tournage.
Avant le tournage pour des questions. Mais oui, je pense que c'est dans la moyenne, en fait. Il y a trois versions officielles. Là, quand on écrit au Québec, t'es payé, en fait, pour trois versions officielles. Et après ça, il faut continuer à travailler jusqu'à temps que le film se fasse.
Et il y avait un besoin d'adapter le scénario à certaines contraintes budgétaires, ou même on parlait en début d'entretien du regard du côté frileux que pouvaient avoir des financeurs à produire un film grand public sur la sexualité féminine. Est-ce qu'il y avait aussi un besoin d'adapter le scénario à ça, ou vous êtes resté sur votre lancée de raconter la libération, cette libération du plaisir de Charlotte?
En fait, ce qui s'est passé, ce qui a été un point déterminant, je pense qu'on a réussi à financer la production du film quand, grâce à Sophie Lorrain, la productrice, qui a lu le scénario, elle a dit « Le scénario est bon, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » C'est qu'avant, il y avait des adultes dans le film. Et Charlotte couchait aussi avec des gars plus vieux qu'elle, plus âgés qu'elle, parce que, bon, c'était comme l'idée il y avait des gars plus vieux dans le magasin de jouets. Il y avait des adultes, il y avait des parents, et tout ça était très confus, puis il a fallu, à un moment donné, faire le ménage, c'est-à-dire il fallait rester sur la gang de jeunes, il fallait rester sur la femme. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses que... La version après ça a été très rapidement, parce qu'elle avait mis le doigt, Sophie, exactement sur ce qui dérangeait, en fait.
Effectivement, dans le film, il n'y a plus aucun adulte, même des adultes qui pourraient encadrer aussi la vie du magasin de jouets. Est-ce que vous avez connu une bonne exploitation au Québec ou dans d'autres pays? Parce que, de ce que j'ai compris à l'avant-première, il y a eu le distributeur du film... Un des distributeurs du film a privilégié une stratégie qui mettait en valeur un autre film avec les mêmes codes, mais dont les protagonistes étaient masculins.
Ben oui, on s'est fait damer le pion un peu par une production où c'était l'histoire d'un gars qui veut perdre sa virginité. Alors que on a vu ça plusieurs fois, mais c'était quand même un très bon film. Là. Je suis pas amère de ça, mais c'est sûr qu'on a eu une sortie beaucoup plus petite que ce qu'on aurait espéré. On est sorti dans 11 salles qui ont relativement bien fonctionné. Mais ce qui a été la belle surprise pour ce film-là, c'est qu'on a fait une quinzaine de festivals, dont le festival de Tribeca, dont Angoulême. On a eu une très belle sortie aux États-Unis avec le film en français, avec des sous-titres anglais, ce qui n'est pas pour une comédie d'ado, je dirais, c'est assez rare. Donc, ce qu'on n'a pas eu au Québec, puis là, on sort en France. Donc, ce qu'on n'a pas eu au Québec, ben, on l'a eu à l'international. Fait que c'est quand même une belle vie pour le film. Puis, je pense que même s'il n'est pas sorti en salle, maintenant, avec tout ce qui se passe ailleurs, les gens connaissent le film au Québec, puis ils vont le voir autrement.
Et pendant cette vie du film, est-ce que vous avez eu, en festival notamment, est-ce que vous avez eu des retours de jeunes filles, éventuellement, des adolescentes qui auraient vu le film et pendant peut-être la découverte de leur vie sexuelle, est-ce que le film a touché finalement le public qui est mis en scène dans le film?
Oui. Chaque fois qu'on a réussi à rejoindre notre public, en général, c'est un succès dans le sens qu'ils se reconnaissent. Ils sont pas, on n'a rien à leur apprendre, en fait, et le film prétend pas apprendre quoi que ce soit, mais ils font, enfin, on en parle. C'est comme si, comme vous parliez tantôt de naturel, mais c'est comme s'il y a quelque chose qu'on n'a jamais montré. Et là, on le montre, mais c'est pas spectaculaire. Tout le monde, il y a personne qui va dire « Oh mon Dieu, c'est choquant, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. » C'est juste finalement, quand on regarde dans les films qui sont présentés aux ados, puis dans les points de vue, souvent, la sexualité féminine est présentée par la négative ou par le point de vue masculin. Et là, on a fait l'inverse. Et les filles sont contentes de ça, ils se reconnaissent en fait.
Et ils se reconnaissent pour un résultat qui est tout à fait réussi. Merci beaucoup, Catherine Léger, d'avoir été au micro de la matinale de 19h. On rappelle donc que Charlotte à 17 ans sort dans les salles françaises le 12 juin, donc c'est mercredi prochain. Et on vous le recommande chaudement, la rédaction de la matinale et moi-même. Merci beaucoup. Tout de suite, une pause musicale sur le 93.9. Vous écoutez la matinale. C'était Family Hooden de Wild Classical Music. Ensemble sur Radio Campus Paris, c'est la fête dans le studio, il est 19h37.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Voilà, Antonin Simard, aujourd'hui vous nous parlez d'un sujet qui concerne nombre d'entre nous.
Alors bonjour Simon, hein. Vous, chères auditrices, auditeurs, êtes sans doute à l'heure qu'il est une ou un étudiante, j'écris en écriture inclusive mais j'arrive pas à lire l'écriture inclusive, venant de terminer un cursus quelconque. Que vous ayez fait une licence, un BTS, un master, le but reste le même, décrocher un job après tout ça au terme de vos études. Certains visent l'intermittence, d'autres un poste fixe dans une grande entreprise avec un CE, des congés payés et de nombreux avantages qui seront bénéfiques pour vous et votre famille. Ça, c'est les bons côtés. Vive la France et la retraite, la sécurité sociale, on y est quand même bien, pour le moment. Le côté moins positif, c'est la montagne de paperasse auquel vous serez confronté lors de ce passage à la vie active. Je veux bien évidemment parler de la gestion des comptes avec la banque, du logement, des assurances, des mutuelles, les premières déclarations d'impôts et j'en passe. Vous, auditeurs qui rentrez dans la vie active, vous découvrirez le bonheur que procurent les après-midi de remplissage de CERFA, les demandes d'attestation pour les recherches de logement, les longues minutes passées au téléphone à subir les musiques d'attente des compagnies d'assurance et autres prestidigitateurs de bonnes intentions, seulement dans les pubs. Au départ, vous allez sans doute vous retrouver seul, ne comptant plus que sur vos collègues pour lier de nouvelles relations entre les pétanques après le boulot et le pastis. Si vous vivez dans le sud de la France, et la bière si vous vivez dans le nord. Pas de panique, car il restera toujours votre famille pour vous planquer en cas d'urgence. Vous continuerez à aller dans les soirées de vos potes qui sont encore à la fac et qui, pour la majeure partie d'entre eux, n'y foutent plus rien. Vous allez donc devoir leur raconter vos premières expériences en entreprise et dès que vous allez aborder les contraintes de RH ou de projet de restructuration de votre entreprise, ils décrocheront, hein, car vous oserez aborder la réalité et les petits tracas d'un jeune travailleur. Revenons à votre intégration dans l'entreprise à présent. Si au départ, vous vous sentez inutile et que vous ralentissez vos collègues avec vos questions, eh bien vous avez raison. Mais rassurez-vous, certaines personnes, même après 15 ans de boîte, sont encore à ce stade. Enfin, parlons de choses positives à présent, il s'agit donc de la première paye. Ça y est, vous êtes à présent indépendant pour de vrai. Vous vous dites « Cool, je vais plus devoir embêter mes parents pour des histoires d'argent et pouvoir leur faire plein de cadeaux, génial !» Eh bien, détrompez-vous, car je vous rappelle que vous êtes à Paris et qu'il s'agit de votre premier salaire qui s'élève majoritairement à la hauteur d'un SMIC ou d'un SMIC horaire pour les plus chanceux. Les deux tiers de ce SMIC partiront tout droit dans les poches de votre propriétaire chéri qui a bien voulu accepter votre dossier parce que les garants étaient bien plus attirants que votre simple et médiocre personne. Le reste de votre salaire partira dans les agios causés par les usages de votre CB à découvert les mois précédents. Alors tout ça, ce n'est pas très encourageant, je le concède. Je n'ai pas parlé des grèves auxquelles vous voudriez participer, mais là, c'est chaud au niveau thune et j'ai pas parlé non plus du nombre faramineux d'acronymes qui vous tomberont sur la gueule le premier jour. J'en ai déjà trop parlé dans une autre émission qu'il faut écouter le vendredi soir. Bref,
19h.
Vous voulez travailler ? Ok, ne vous découragez pas. Haut les cœurs, la vie est remplie de surprises.
Merci beaucoup Antonin pour cette chronique. Avec et puis pour plaisir. Cette désannonce qui est assez minimaliste, vous avez écrit merci sur mon papier.
Voilà.
Et franchement, je vous en remercie, ça nous permet d'improviser, de profiter un peu des choses de la vie.
On aurait pu faire une désannonce.
Bah, on aurait pu faire un pavé de désannonce. On peut mettre une petite pause musicale.
Oui, bien sûr.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Yeah.
C'était quelques notes de Joe Har et son titre Southbook sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Nous sommes en direct jusqu'à à peu près 19h55 sur le 93.9 et tout de suite, Lucas Aubry va répondre à une question existentielle finalement. Est-ce que vous pouvez répéter la question ?
Eh bien oui, bonjour à tous. La semaine dernière, nous nous penchions sur le sujet épineux des filtres à air. Sont-ils un élément essentiel au bien-être de votre couple ? Peuvent-ils dépanner en cas de pénurie ou en temps de guerre ? Pourquoi de nombreuses personnes particulièrement adverses le considèrent comme un frein à la fameuse exception culturelle française ? Alors, nous avions fait redescendre les tensions, chacun avait exposé ses arguments avec plus ou moins de brio, puis nous avions ensemble établi une vérité, notre vérité. Si les filtres à air ont très certainement participé à envenimer la situation lors du conflit israélo-palestinien, les critiques concernant son organisation interne et ses obédiences politiques ne semblent être que du vent. Voilà, si tout le monde a saisi la vanne entre l'expression « que du vent » et la pièce dite du filtre à air, nous pouvons désormais aller de l'avant. Et ça tombe bien, car notre question du jour concerne justement la locution « aller de l'avant » et nous a été posée par Guillaume, qui nous vient de région parisienne. Si certains connaissent un Guillaume en région parisienne, ils verront certainement de qui on parle. Pour les autres qui n'habiteraient pas en région parisienne ou qui n'auraient pas dans leur cercle proche un dénommé Guillaume ou les deux, hein, il est parfaitement imaginable qu'une personne habitant en région Rhône-Alpes ne connaissent pas de Guillaume. En fait, c'est même parfaitement possible, en sachant que 81% de la population française vit hors de la région parisienne et que l'on estime le nombre de Guillaume à 210 000. Si l'on considère que notre cercle de connaissances s'étend, famille compris bien évidemment, à environ 150 personnes, alors un Français a 23% de chances de ne pas vivre en région parisienne et d'ignorer parfaitement l'existence d'un Guillaume. Ce qu'il pourrait manifester par des formules comme « Mais bon sang, mais c'est qui ce Guillaume ?» ou encore « J'ai bien connu un Antoine une fois, mais jamais de Guillaume. » Alors rassurez-vous, le prénom et la région d'appartenance de l'interlocuteur ont finalement ici peu d'importance. Vous pourrez continuer à suivre sans problème notre débat du jour. Posséder des phares arrière incroyablement modernes permet-il d'aller de l'avant ?
C'est vrai, ça.
Comme on pouvait s'y attendre, les plus exaltés d'entre nous répondront « Oui ». Alors que les plus défaitistes répondront non. Et puis par souci d'équité, pour nuancer un peu, nous sommes allés interroger les égos plus mous des indécis qui semblent tous être assez d'accord pour dire que oui, posséder des phares arrière incroyablement modernes permet d'aller de l'avant, mais pas tout le temps. Les pragmatiques sont au front en affirmant que si des feux arrière incroyablement modernes permettent moins d'aller de l'avant qu'un moteur, par exemple, il n'en reste pas moins plus efficace que certaines composantes de nos véhicules particulièrement réticentes, comme la marche arrière ou le frein à disque. Interrogé, Alexandre Benalla a répondu que pour des raisons de confidentialité évidentes et du fait que ça ne concernait pas aujourd'hui notre mission d'information qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête, il ne répondrait pas à cette question. Nous voilà bien avancés. Serions-nous allés plus loin avec des feux arrière incroyablement modernes ? Je ne sais pas. Je ne souhaite pas tellement m'avancer sur la question. Aurais-je souhaité m'avancer sur la question si ma voiture était équipée de feux arrière incroyablement modernes ? Vos questions m'indisposent et deviennent de plus en plus répétitives, alors je vous propose d'en rester là. J'espère que nous avons éclairé le débat, du reste, sur les points phares de notre sujet. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec cette question. Les vide-poches peuvent-ils constituer un lieu de rencontre idéal pour les trentenaires en sortie d'études ? Nous essaierons d'esquiver la polémique. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine, même heure et même antenne. Et merci pour cette petite fanfare qui joue derrière nous.
C'est toujours agréable d'habiller mes chroniques. La fanfare émerge derrière Lucas Aubry. Merci beaucoup, cher ami. On vous retrouve la semaine prochaine, mon vieux, et je crois que sur Radio Nova, certainement, un jour, peut-être, on ne sait pas. La matinale, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci par désordre d'apparition vocale, Lucas Aubry. Pour sa chronique, Antonin Simard à la réalisation et à la chronique, c'est un peu le couteau suisse de cette radio. Élodie Hervier et Bettina Lioret à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, et d'ici là, en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Dans un instant, ma ligne de chance sur Radio Campus Paris, avant de retrouver Extérieur Nuit et sa clique de critiques cinéma en tout genre et tout registre. Bonne soirée sur le 93.9, cordialement.